France Inter, il est 13h. Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13-14, ravi de vous retrouver à la une aujourd'hui. Tenir la digue du système de santé face au raz-de-marée Covid. Les records de contamination se succèdent. Dans un instant, plongé dans un service de réanimation saturé à Perpignan, certains établissements sont forcés de rappeler des soignants malades mais asymptomatiques. Dans quel cadre et avec quel risque? On en parle avec notre premier invité, président de la Fédération hospitalière de France. La Covid, mieux vaut prévenir que guérir. Et pour ça, le gouvernement impose 3 jours de télétravail obligatoire sous peine d'amende. Ça sera 1 000 euros maximum par salarié, mode d'emploi de ce nouveau système dans le journal. Le masque aussi fait son retour en extérieur, en Île-de-France et en région lyonnaise. Et bientôt, le pass vaccinal sera-t-il exigé à l'entrée de certains meetings? La question fait débat chez les élus, vous verrez. Dans le journal encore, comment protéger les députés? Dans ce contexte sanitaire tendu, les agressions se multiplient. Le nouveau Houellebecq, disponible dès aujourd'hui sur Internet, son roman Anéantir, qui devait sortir en janvier, a été piraté. On y reconnaît quelques figures politiques françaises. Ilana Morioli, Youssef, vous avez lu plus de 700 pages. Quelques mots pour résumer?
Alors, romantique, nihiliste, prophétique, on espère que non, et en tout cas, trop long.
Allez, on prend un peu plus de temps pour vous raconter à la fin de cette édition. Dans la deuxième demi-heure du 13-14, un an de présidence Biden aux États-Unis, quel bilan? Question posée à Laurence Nardon, spécialiste de l'Amérique du Nord à l'IFRI. On attend vos appels 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Et le feuilleton revient aujourd'hui sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Sécurisation terminée, la reconstruction peut commencer, non sans polémique. Vous verrez, le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Face au raz-de-marée, nos services de santé peuvent-ils tenir? C'est la question alors que le nombre de contaminations à la Covid bat des records, 208 000 tests positifs en une journée. Plus d'un million de Français souffrent du coronavirus, dont le footballeur Antoine Griezmann, on l'a appris ce matin. Conséquences visibles, par exemple à l'hôpital de Perpignan. Le service de réanimation est saturé, 24 des 27 lits réservés aux patients Covid sont occupés et l'afflux de malades continue, Suzanne Chaudjahi.
3 ou 4 nouveaux patients arrivent chaque jour en réa, un long tunnel sans fin pour Marie Duché, la cadre de santé.
On a l'impression que rien n'avance et qu'à chaque fois qu'on espère un petit peu que ça aille mieux, ben on repart en arrière et on recommence et on recommence. On retombe et on a l'impression de retomber un peu plus bas, donc c'est vraiment difficile.
Là, un patient doit être intubé en urgence. Lui est un patient Covid, mais il y a toute l'activité en réa, en plus les accidentés de la route notamment. Olivier est aide-soignant.
On est très sollicité et on est épuisé.
Alors quand on demande à Priscilla, l'infirmière, si elle a le moral?
Pas trop, parce que la première chose qu'on nous dit en transmission, c'est il a le Covid, il n'est pas vacciné.
Plus de 90% des malades en réa Covid à Perpignan ne sont pas vaccinés.
Ça nous rajoute un travail monstrueux. On sait qu'après les fêtes, en janvier, on risque d'être beaucoup rappelé.
D'ailleurs, Priscilla n'a pas pris de vacances.
On n'a pas eu des congés, non. Au lieu de 3 repos, on en a eu 4, mais parce que notre cadre a fait tout pour qu'on ait un minimum de jours.
En réa, à Perpignan, c'est essentiellement le variant Delta et les soignants craignent que le pic du Delta arrive en même temps que la vague Omicron.
Au reportage France Bleu Roussillon, et avec la vague Omicron, le nombre d'admissions quotidiennes à l'hôpital pourrait atteindre 2700 par jour, soit autant que la deuxième vague selon l'Institut Pasteur. Un chiffre qui pourrait être divisé par 2 si nous réduisons nos contacts de seulement 20%. En attendant, pour tenir le choc, certains hôpitaux ont depuis Noël le droit de faire travailler leurs soignants positifs à la Covid, mais asymptomatiques. Pour en parler avec nous, Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France, premier invité de ce 13-14. Bonjour.
Bonjour.
Cette possibilité de rappeler les soignants positifs, est-ce que beaucoup d'établissements y ont recours?
Alors, cette possibilité de rappeler les soignants positif mais qui n'ont pas de symptômes, il faut rappeler que c'est déjà le cas et
ça a déjà été le cas.
En œuvre,
oui.
Effectivement, dès les premiers pics. Donc, est-ce que certains établissements l'ont mis en place? Oui, sans doute, puisque dans la graduation de la mobilisation des forces de soignants, effectivement, cette possibilité est à nouveau ouverte, comme ça a été le cas lors des pics précédents. Donc, sans doute que des établissements les pris à la gorge en termes d'effectifs ont dû d'ores et déjà mettre en place ce système.
Vous n'avez pas une idée de l'ampleur de ces recours justement aux soignants malades?
C'est, c'est difficile à estimer, puis ça se fait au jour le jour. Il y a à la fois ceux, effectivement, il faut faire face à des soignants qui seraient touchés par le Covid, et il n'y a pas de raison que les soignants échappent à une vague qui touche énormément de Français de grande ampleur, vous avez rappelé les chiffres. C'est aussi une possibilité de conserver du personnel, des soignants, pour des établissements qui sont face à des pénuries, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, avec des fermetures de lits à la clé, et donc une difficulté à maintenir des services qui fonctionnent. Donc voilà, c'est malheureusement, on en est là, mais c'est le cas déjà depuis bientôt 2 ans. Hein. C'est pas nouveau.
C'est un dernier recours, en fait, dans certains établissements qui sont submergés.
Oui, c'est un dernier recours, mais enfin, faut insister sur une chose. Vous disiez, on va peut-être arriver jusqu'au chiffre de la deuxième vague. Mais il faut quand même comprendre que cette, au-delà des chiffres même, qui dessinent peut-être une ampleur moins importante, et certainement moins importante que la première vague il y a bientôt 2 ans. Mais pour l'hôpital, chaque nouvelle vague est plus difficile à encaisser. Chaque vague qui arrive fragilise un peu plus les digues hospitalières. Il y a moins de personnel aujourd'hui dans les hôpitaux qu'il y en avait il y a 2 ans, et comme l'ont dit ceux qui ont été interrogé dans votre reportage, la fatigue est là, l'épuisement est là, les congés n'ont cessé d'être reportés, raccourcis, parfois annulés depuis 2 ans, les organisations n'ont cessé d'être bousculées, et il ne faut pas oublier aussi, c'est que cette nouvelle vague-là se fait dans des conditions où l'hôpital va moins d'aide extérieure qu'il n'en a eu, notamment lors de la première vague, puisqu'il n'y a pas les renforts de personnel extérieur, on n'a pas les personnes des cliniques qui viennent donner un coup de main, il n'y a pas les jeunes retraités qui mettre la blouse et qui viennent aider ceux qui sont dans les services. Donc ce contexte d'une certaine solitude des hospitaliers face à cette nouvelle vague pèse évidemment beaucoup plus par rapport à des chiffres dont on pourrait se dire bah oui, mais ils ne sont finalement que ce qu'était la deuxième vague. Oui, mais les conditions sont plus difficiles.
Frédéric Valtoux, dans quelles conditions ils peuvent revenir, ces soignants positifs mais asymptomatiques? On imagine que c'est très encadré.
Oui, c'est encadré. Il y a des mesures des mesures qui les entourent. On prend des. De toute façon, les soignants sont des professionnels de l'hygiène. Les soignants savent effectivement se protéger pour protéger les autres. Et donc, effectivement, on n'expose pas peut-être des personnes qui sont touchées par le Covid. On les met pas en première ligne face à des patients. Ils peuvent venir aider, mais on organise le service de manière effectivement à ce qu'ils puissent aussi être le moins en contact possible et avec leurs collègues, même si c'est bien sûr compliqué, mais et avec leurs collègues et avec des patients. Donc en fait c'est vraiment une question d'organisation interne, mais il faut le redire, c'est un levier supplémentaire qui est le dernier levier une fois qu'on a eu recours à l'intérim, bousculé les vacances,
vous pouvez...
dont on parlait, et les plannings.
Vous pouvez nous dire que c'est sans risque pour les malades à ce jour?
Je peux pas vous dire c'est sans risque. Tout dépend de chaque hôpital, de chaque service, de chaque organisation. Je pense qu'il y a, une conscience des hospitaliers de ce qu'est effectivement la possibilité d'être transmettre la maladie. Donc ils font attention à ça. Je le redis, ce sont des professionnels de la sécurité sanitaire, de l'hygiène. Donc ils font toutes les précautions sont prises. Maintenant le zéro risque n'existe pas, et à l'hôpital comme ailleurs.
Et qu'est-ce que vous attendez, Frédéric Valtoux, concernant le délai d'isolement qui pourrait être réduit d'ici la fin de la semaine? Est-ce que ça pourrait aider, par exemple, pour les cas contacts qui seraient isolés un peu moins longtemps?
Je crois qu'il faut s'en remettre, comme on le fait depuis le début, aux autorités médicales. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que dans beaucoup de pays, les autorités médicales, aux États-Unis, dans beaucoup de pays européens, raccourcissent les délais. C'est en cours, les délais de quarantaine, si on veut dire ça comme ça. C'est en cours de réflexion en France. Moi, j'ai pas un avis qui sera différent de celui de ce que les autorités médicales auxquelles je fais confiance sera amené à donner.
Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France, merci de nous avoir répondu sur France Inter.
Merci beaucoup.
Renforcer les digues du système de santé et prévenir aussi les contaminations, c'est l'objectif entre autres du télétravail obligatoire voulu par le gouvernement dès lundi prochain. 3 jours de travail à distance partout où c'est possible, sous peine de sanction. L'amende pourra aller jusqu'à 1 000 euros par salarié, annonce aujourd'hui la ministre du Travail, dans la limite de 50 000 euros. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Service économie de France Inter. Le mot d'ordre du gouvernement
vraiment, c'est la fermeté. Hein.
Oui, la plupart des employeurs jouent très bien le jeu, insiste la ministre. Mais certaines entreprises restent réfractaires. 5000 contrôles sont réalisés chaque mois sur le respect des protocoles sanitaires. Et pour le gouvernement, il était devenu nécessaire d'être plus dissuasif et plus rapide. Alors, plus dissuasif, c'est une amende administrative dont le montant a été âprement discuté. Le chiffre de 2000 euros par salarié et d'un montant maximum de 500 000 euros avait été évoqué. Finalement, le gouvernement a tranché, ce sera 1000 euros par salarié et un maximum de 50 000 euros. L'autre axe, c'est donc la rapidité. Elisabeth Borne a évoqué ces entreprises qui jouent sur la longueur des procédures judiciaires pour gagner du temps. Dès l'entrée en vigueur de la loi sur le pass vaccinal mi-janvier, les inspecteurs du travail pourront sur le terrain constater des infractions qui devront être validées ensuite par une direction régionale. Les entreprises seront alors obligées de payer, quitte à les contester ensuite, la notion de poste télétravaillable pouvant encore donner lieu à débat.
Agnès Soubéran pour France Inter, merci à vous. Et pour limiter la flambée, le masque en extérieur fait aussi son retour. C'était le cas déjà dans certains centres-villes. Lyon et Villeurbanne s'y mettent à leur tour à compter de ce soir minuit. Même chose à Paris et dans plusieurs départements d'Île-de-France. Une initiative utile, estime l'épidémiologiste Yves Buisson, qui préconise même, comme en Italie par exemple, le port du masque FFP2, plus protecteur.
Porter le masque à l'extérieur, ce n'est pas une grande contrainte, c'est aussi un signal pour rappeler que nous sommes dans une phase critique où la circulation du virus est extrêmement importante. Donc, porter le masque à l'extérieur, eh bien, après tout, c'est pas si grave. Comme ça, on le porte à l'extérieur, à l'intérieur, dans les transports en commun, on ne l'enlève plus. Le masque chirurgical, s'il est bien porté, et si dans les transports en commun, les gens perdent l'habitude de téléphoner, de parler, gardent la bouche fermée, il n'y a pas de problème. C'est mieux de porter un masque FFP2, mais enfin, ça ne me semble pas indispensable. En revanche, dans les transports par voie ferrée ou les transports aériens, je crois que ce serait préférable, effectivement, parce que là, on a de longues périodes de cohabitation dans un lieu fermé, même s'il y a une ventilation, et je crois que ça serait une précaution qui ne serait pas superflue.
Yves Buisson de l'Académie nationale de médecine avec Céline Asselot sur France Info. Trajet masqué dans la rue le soir du réveillon pour une bonne partie des Français. Il faudra aussi respecter d'autres restrictions. Consommation d'alcool en groupe interdite dans les lieux publics à Paris et interdite tout court sur les berges de Seine. Fermeture des bars à 2h en Île-de-France. Dans les Hauts-de-Seine, pas de vente d'alcool à emporter dès 18h demain. Certains pays sont bien plus radicaux. C'est le cas, on le sait, de la Chine. À l'approche des Jeux Olympiques, Pékin mène une stricte politique zéro Covid dans la province du Yunnan. Tension à Jingong, ville touristique proche de la frontière birmane. Les autorités ont verrouillé son quartier principal pour un seul cas positif de Covid. Sébastien Berriot, correspondant de France Inter en Chine, nous raconte.
Venus de Pékin, Shanghai ou encore de la capitale de la province Kunming, les touristes étaient venus passer leur congé de fin d'année sur les bords du Mékong, mais les vacances se sont arrêtées subitement. Un seul cas de Covid et voilà que le quartier des hôtels est entièrement bouclé. Interdiction d'en sortir. Et fait assez rare en Chine, la colère des vacanciers s'est exprimée hier soir dans la rue. La police et l'armée se sont déployés pour ramener le calme, comme le raconte le correspondant du journal Le Monde en Chine, Frédéric Lemaître, qui était lui aussi en vacances là-bas.
Il y avait des centaines de gens, surtout des jeunes à vrai dire, qui voulaient absolument sortir du quartier. Ils disaient « on veut des tests, on veut des tests, on veut des tests ». Il était plus de 22 heures et donc il y avait des fortes tensions, même s'il faut le dire, il n'y a pas eu de violence. Et vers minuit, les gens ont peu à peu regagné leur chambre d'hôtel. Mais là, ce matin, nouvelle surprise, puisque nous n'avons plus le droit de quitter l'hôtel. Il y a des soldats devant tous les hôtels. Voilà, c'est un exemple concret de la stratégie zéro Covid. Donc des gens comme moi, on est simplement cas contact de cas contact.
D'après les premières informations données par les autorités, les vacanciers devraient rester confinés dans leur hôtel au moins jusqu'au 8 janvier. Sébastien Berriot, Pékin, France Inter.
En France, l'un des outils anti-Covid, ce sont les jauges qui font leur retour dès lundi. 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 en extérieur. Elles s'appliquent aux concerts, aux événements sportifs par exemple, mais pas aux foires, salons, parcs d'attractions et zoos, précise aujourd'hui le ministre délégué au tourisme. Pour Jean-Baptiste Lemoine, il s'agit de distinguer les rassemblements statiques et les lieux où on circule. Le pass sanitaire va lui devenir un pass vaccinal. La loi a été adoptée en commission à l'Assemblée nationale hier. Elle sera discutée dans l'hémicycle à partir de lundi. Des doutes persistent, cependant, sur la portée exacte de ce pass vaccinal. Pas obligatoire pour les sorties scolaires. Un test négatif pourra suffire, prévoit un amendement. D'après le ministère de l'Éducation, le pass ne sera pas nécessaire non plus pour passer ses partiels quand on est étudiant. Pourrait-il, en revanche, être réclamé à l'entrée des meetings politiques alors qu'une année électorale s'engage ? Les députés ont voté dans ce sens en commission la nuit dernière. Bonjour William Delesseux.
Bonjour.
Vous avez suivi ce débat pour France Inter. Les oppositions sont vent debout.
Oui, les Insoumis, le Rassemblement National contre cet amendement signé du député Les Républicains Guillaume Larrivé au sein même des LR. Le texte ne fait pas consensus à droite. Certains ont voté contre la nuit dernière. Il s'agit de demander un test négatif ou le futur pass vaccinal à l'entrée des meetings. C'est à la libre appréciation de chaque organisateur. Un amendement inadmissible pour Julien Audoul, le porte-parole du RN.
Le parti Les Républicains est totalement soumis au macronisme sur ce volet-là. On sent bien qu'il y a une volonté assez perverse de la part du gouvernement de laisser finalement s'organiser des meetings tout en laissant les candidats prendre la responsabilité. Nous souhaitons véritablement que cette campagne ait lieu.
Le RN, le parti d'Éric Zemmour, encore la France Insoumise, cet axe extrême droite, extrême gauche a pour l'instant prévu de ne pas contrôler le pass vaccinal. Marion.
Mais William, les meetings font partie de la vie démocratique du pays. Est-ce qu'il est bien constitutionnel de réclamer le pass vaccinal aux citoyens qui veulent y accéder ?
Eh bien oui, vu la violence de la cinquième vague. Dans la Constitution, il y a le principe de la protection de la santé. Jean-Philippe Derosier est professeur de droit constitutionnel à Lille.
Je pense qu'il est même sain pour la démocratie de garantir la sécurité sanitaire des meetings en exigeant le pass sanitaire, mais interdire des meetings politiques au-delà d'un certain nombre de personnes dans le cadre d'une campagne présidentielle, là, ça me semble quelque peu problématique au regard des principes démocratiques.
Et oui, fixer une jauge dans les réunions politiques, Guillaume Larrivé a voulu l'imposer dans son amendement. Cette option est écartée à ce stade. Le gouvernement va en discuter d'ici fin janvier avec tous les candidats.
William Delesseux du service politique de France Inter, merci à vous. La vaccination anti-Covid et le pass restent incontestablement, on le voyait, un point de crispation. La preuve, ces agressions de plus en plus nombreuses contre les élus. Dernière en date, le garage incendié du député LREM de l'Oise et des inscriptions anti-pass sur son domicile. On estime que 1700 atteintes de ce genre ont été commises entre janvier et octobre. Cela va des inscriptions hostiles aux menaces de mort. Le ministre de l'Intérieur appelle aujourd'hui à renforcer la surveillance des permanences et domiciles des députés. Mais Emmanuel Leclerc, peut-on vraiment protéger mieux les élus ?
Les responsables policiers et gendarmes confient régulièrement qu'ils ne peuvent évidemment pas mettre un agent en protection rapprochée auprès de chaque élu ou devant leur permanence et domicile. À l'exception, on le sait, de mesures très ciblées en cas de menace terroriste ou comme en Italie, de protection face à la pression de la mafia. Là, dans le cadre du vote à venir de la loi sur le pass vaccinal, le ministre de l'Intérieur a déjà acté avant-hier un renforcement de la protection des parlementaires dans un télégramme adressé au préfet et que nous avons pu consulter. Et cela passe par une prise en compte systématique des adresses connues des élus dans le parcours des patrouilles de police ou de gendarmerie pour les permanences et les domiciles, justement. Des patrouilles dynamiques, à pied, en voiture, jamais aux mêmes horaires. Ensuite, il s'agit, lorsque des dégradations interviennent, lorsque des menaces sont proférées sur les réseaux sociaux, que des moyens d'enquête conséquents soient déployés. Mais ça prend parfois des mois pour aboutir à des interpellations et une éventuelle condamnation judiciaire, du moins si les auteurs laissent des traces de leur acte crapuleux, traces ADN ou numériques.
Au chapitre justice et Covid encore, France Inter, vous le révélez ce matin, la reprise du procès des attentats du 13 novembre sera décalé de 2 jours au moins. Le principal accusé, Salah Abdeslam, est positif à la Covid. La cour d'assises spéciale devait initialement reprendre ses travaux mardi. Vigilance renforcée sur l'approvisionnement en électricité. Le gestionnaire du réseau haute tension français RTE dit se préparer à un système électrique en situation dégradée. L'approvisionnement en électricité nucléaire est à son plus bas niveau jamais atteint. Depuis novembre, notre pays importe fréquemment de l'électricité. Les cultivateurs de betteraves à sucre se réjouissent. Les défenseurs de la biodiversité, beaucoup moins. Les semences enrobées d'insecticides néonicotinoïdes restent utilisables pour un an encore l'an prochain en France. Le projet d'arrêté vient d'être publié. L'idée, c'est de protéger les cultures des pucerons. Mais ce type d'insecticide, considéré comme tueur d'abeilles, est interdit en Europe depuis 2018. C'est donc une dérogation. Un cadeau au lobby de la FNSEA, selon les écologistes, mais la majorité s'en défend. Expliquez-nous, Célia Quiret.
L'État a déjà investi 7 millions d'euros pour trouver des alternatives à ces insecticides. Il y a une vingtaine de projets de recherche à la clé, mais la filière de la betterave à sucre n'est pas encore prête à vivre sans ces néonicotinoïdes. Grégory Besson-Moreau, député La République en marche de l'Aube, soutient ces cultivateurs.
Le puceron, c'est pas une seule maladie. Hein. Le puceron est porteur de 4 virus. Et donc ça prend un petit peu de temps. Moi, je pense qu'il est nécessaire d'arrêter cet insecticide. Mais arrêter d'un seul coup, c'est mettre l'ensemble d'une filière et 40 000 familles au chômage. Vous les envoyez dans le mur.
Mais le temps presse pour des militants comme François Veyred de Génération Future. Pour lui, aucun danger imminent pour la betterave à sucre ne justifie un tel cadeau. Or, les abeilles, les producteurs de miel et toutes les cultures qui dépendent de la pollinisation en payent les conséquences.
Ça veut dire que ces insecticides tueurs d'abeilles vont se répandre encore un peu plus dans l'environnement. On sait qu'ils sont très très toxiques. Hein. Quelques traces infimes suffisent à tuer ou à désorienter les abeilles. Et puis, ils persistent très longtemps dans l'environnement. Donc, ils peuvent impacter les abeilles et d'autres pollinisateurs pendant très longtemps, pas seulement l'année pendant laquelle on les utilise, mais pendant de nombreuses années après.
Et si la filière ne peut toujours pas s'en passer en 2023, elle pourra encore demander un délai supplémentaire d'un an, mais ce sera son dernier joker. À partir de 2024, selon la loi, aucune dérogation ne sera possible.
Des milliers de Sud-Africains attendus à la cathédrale Saint-Georges du Cap, devant un cercueil en plein air décoré d'œillets blancs. Ils viennent rendre hommage à la dépouille de Desmond Tutu, l'archevêque, figure de la lutte contre l'apartheid. Desmond Tutu est mort à 90 ans dimanche dernier. Il doit ensuite être incinéré et enterré dans la cathédrale. Les présidents russes et américains affichent leurs bonnes intentions avant un entretien téléphonique au sujet de l'Ukraine aujourd'hui, sur fond d'inquiétude face à une possible invasion russe. Joe Biden entendait-il proposer une voie diplomatique pour sortir de cette crise? Seule la voie des négociations peut résoudre le problème, répond comme en écho le porte-parole du Kremlin. Joe Biden, président des États-Unis depuis presque un an. On fait le bilan de cette présidence à 13h30 avec notre invité Laurence Nardon, spécialiste des États-Unis à l'IFRI. Vos questions 01 45 24 7000. Un anniversaire sonnant et trébuchant, celui de l'euro, monnaie européenne qui aura 20 ans le 1er janvier. 19 États membres l'utilisent à ce jour et s'apprêtent cette année à discuter de billets communs représentant des personnalités européennes. 19 États sur 27 donc. À qui le tour, Valérie Crova?
8 des 27 États membres de l'UE ne font pas encore partie de la zone euro, mais tous ont vocation un jour à rejoindre le club, à l'exception du Danemark qui a obtenu une clause d'exemption et de la Suède qui maintient volontairement son économie hors des critères de convergence pour conserver une souveraineté économique. Pour les autres, à savoir la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Pologne, la Hongrie et la Roumanie, ce n'est qu'une question de temps. Mais pour intégrer la zone euro, ils vont devoir respecter les critères définis par le traité de Maastricht, en particulier la stabilité des prix, le déficit budgétaire qui doit être inférieur à 3% du PIB et la dette publique qui ne doit pas dépasser 60%. Théoriquement, car la pandémie de Covid a tout remis à plat. La Croatie et la Bulgarie ont une longueur d'avance après avoir intégré le mécanisme de change européen qui doit leur permettre d'aboutir à une parité entre leur monnaie nationale et l'euro.
On a vu en lui un oracle, un analyste de notre temps, c'est surtout un romancier. Chaque livre de Michel Houellebecq est en tout cas un événement. Son nouvel ouvrage, intitulé « Anéantir », sort le 7 janvier aux éditions Flammarion. Tout était préparé avec 1000 précautions, mais une copie pirate a fuité en ligne dès aujourd'hui. Bonjour Ilana Mor-Youssef.
Bonjour.
Vous avez lu ce livre pour France Inter. Qu'est-ce que ça raconte?
Eh bien, ça parle d'un univers que vous connaissez bien, Marion, vous qui avez longtemps arpenté les couloirs de Bercy pour France Inter. C'est l'histoire d'un conseiller, Paul Raison, conseiller d'un ministre de l'économie prénommé Bruno, comme Bruno Le Maire. Mmh. On est en 2027. Le jeune président, qui n'est pas cité, nommé, achève son deuxième mandat après avoir, je cite, délaissé les fantasmes de la Startup Nation qui avait fait sa première élection. Suivez mon regard. Le jeune président, donc, s'apprête à passer la main. On est dans une légère dystopie politique où une star du divertissement bas de gamme affronte un candidat du Rassemblement National et où le terrorisme numérique fait rage. Les dessous d'une campagne racontée par Houellebecq, c'est assez amusant.
Mais Ilana, Houellebecq, ça ne serait pas Houellebecq s'il n'y avait pas une bonne dose de neurasthénie.
Oui, et son personnage d'ailleurs n'a ni espoir ni désir. Il en est quasiment à faire frigo séparé avec sa femme. Il a perdu de vue ses frères et sœurs. C'est l'AVC du père qui leur permet finalement de se rapprocher les uns des autres. Cela donne des pages assez fortes sur la façon dont la société traite les personnes âgées dépendantes. C'est un livre hanté par la mort, presque morbide, où la seule consolation réside dans la foi, pour ceux qui croient, et dans l'amour, pour ceux qui le trouvent.
Et bilan, Ilana, est-ce qu'il faut le lire, ce livre ?
Eh bien, Anéantir, c'est une sorte de pot-pourri des thèmes et obsessions de Houellebecq, alors pourquoi pas ? Mais on a le sentiment, en le lisant, qu'il est devenu une telle star que plus aucun éditeur n'ose lui suggérer de couper dans son texte. C'est un livre lent, cela se conçoit, et sans doute trop long, et c'est dommage.
Merci, Ilana Mor-Youssef. Votre critique et votre résumé à retrouver sur notre site franceinter.fr. Tout autre genre d'événement culturel, si on peut dire. Si vous ne savez pas quoi faire pour le réveillon, sachez que l'américaine Paris Hilton donne un concert dans le métaverse sur la plateforme Roblox. En réalité, c'est plus un DJ set sur son île personnelle créée spécialement pour l'occasion. Les visiteurs pourront visiter son domaine, son yacht, sa voiture et aussi mettre la main au porte-monnaie pour acquérir ses vêtements virtuels. On reste dans l'économie avec une bataille loin d'être virtuelle, elle. Celle d'une boulangère itinérante contre un distributeur de pain. Ça se passe à Vacquières, dans l'Hérault. La machine est arrivée le 17 décembre dernier et met en vente le pain fait par le boulanger d'un village voisin. La boulangère, qui compte 50 clients à Vacquières, y voit un manque de respect pour son métier. Récit Claire Moutarde.
Cela fait 7 ans que la boulangère Karine Barthélémy se lève à 5h du matin pour faire sa tournée à Vacquières. Un jour, elle tombe nez à nez avec un distributeur automatique à pain à l'entrée de la commune.
On ne remplace pas un humain par une machine, ça se passe. Je livrerai du pain qu'une fois par semaine. Mais moi, tous les jours, j'y suis. Je vends du pain, des viennoiseries, on a installé un frigo exprès pour vendre des gâteaux le dimanche, donc je respecte les normes d'hygiène, donc je comprends pas que la mairie ait accepté ça.
Le maire, contre cette machine, dans un premier temps, a dû céder, explique-t-il. Une partie de la population était frustrée de ne pas avoir de distributeur de pain comme dans les villages voisins. Jean-Baptiste Panchaud.
On a une majorité de la population qui travaille sur la région de Montpellier, enfin la métropole. Donc c'est des gens qui s'en vont le matin, qui rentrent le soir. Donc c'est des gens plutôt pour le dépannage qui ont oublié d'acheter le pain au travail ou qu'on en a besoin le soir parce qu'ils ont des amis à manger, qui ont besoin d'une baguette supplémentaire.
Les clients de Karine, une cinquantaine de personnes, sont plutôt des retraités ou des agriculteurs qui restent, eux, au village pour manger le midi. Beaucoup lui ont écrit un mail pour lui dire qu'ils la soutiendraient, comme Marie.
On n'a pas besoin de prendre la voiture et on est livré, on a un petit déjeuner frais et bien bon. Après, on se plaint que dans les petits villages, il n'y a pas d'épicerie, de boulangerie. Et voilà qu'une personne bien gentille passe et nous rend service. Il faut la conserver.
Un reportage France Bleu Hérault. Dans un instant, la météo encore douce de ce jeudi, puis on fait le bilan d'un an de présidence Biden aux États-Unis avec notre invitée, la spécialiste Laurence Nardon. Vos questions à Laurence Nardon, 01 45 24 7000.
C'est bon maman, je suis cachée.
J'arrive chérie. Elle est où ? Peut-être ici ou là, je t'ai trouvée.
Grâce à la Fondation Abbé Pierre, Virginie est heureuse. Elle a pu sortir de la rue et retrouver un logement digne pour se reconstruire avec sa fille. Il y a une vie après la rue. Aidez-nous à agir. Donnez sur fondationabbépierre.fr.
Tu sais comment un vrai connaisseur comme moi choisit un foie gras ?
Bah tu regardes s'il est du Sud-Ouest.
Ah, tu es connaisseur toi aussi ?
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine.
France Inter aime...
Belle, le nouveau film d'animation du cinéaste japonais Mamoru Hosoda. Suzu, une jeune fille timide, explore en parallèle la vie réelle et le monde virtuel de Yu. Une communauté où elle devient Belle, une chanteuse adulée suivie par des milliards de followers. Elle fera bientôt la connaissance d'une étrange créature. Belle, actuellement au cinéma, un film France Inter.
La météo de ce jeudi.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Grande douceur et amélioration.
Oui, douceur record, même sur la moitié nord, les températures de la nuit affichaient parfois des valeurs plus proches des normales climatologiques d'un mois de juillet. Une multitude de records de températures minimales élevées pour un mois de décembre sont donc tombés. On peut citer Lille, Saint-Quentin, Nancy, Roissy, Le Cat ou encore Lannion. Record aussi à Besançon. L'ancien record datait de 1915. Cet après-midi, les températures maximales seront encore exceptionnellement douces, généralement 8 à 12 degrés au-dessus des normales saisonnières. D'autres records risquent donc d'être battu. Prévoyez 14 à 20 degrés en général avec 15 degrés à Lille, Paris, Quimper, Paris, Nantes, Paris je l'ai déjà dit d'ailleurs, Nantes, Strasbourg ou Dijon ou encore 16 degrés à Caen, Lyon, Toulouse. On ira jusqu'à 22 degrés à Aubagne et Perpignan et même des pointes à 23-24 degrés sur le Languedoc-Roussillon et les Pyrénées-Atlantiques. Cet après-midi s'annonce largement ensoleillé, des Charentes aux Pyrénées jusqu'aux régions méditerranéennes avec un ciel légèrement voilé. Le soleil est également revenu sur les Alpes mais il faut rester extrêmement prudent sur les massifs. Le risque d'avalanche est élevé de 3 sur 5 et on craint des déclenchements de plaques volumineuses par les randonneurs et les skieurs. Le hors-piste est fortement déconseillé. Entre les préalpes, le massif central, le Poitou et le sud de la Bretagne, le ciel sera plus variable, les éclaircies devenant quand même de plus en plus franches. Le ciel sera plus chargé sur le nord de la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, le centre-Val de Loire, la Bourgogne et la Champagne. Mais la couche nuageuse va se morceler un peu et des rayons de soleil arriveront à se faufiler. En revanche, entre le Jura, l'Alsace, la Lorraine et le nord de la Seine, les nuages resteront plus compacts, lâchant même quelques gouttes près des frontières. Enfin, on rappelle que les services de Vigicru maintiennent la vigilance orange sur l'Ain.
Merci Sébastien Léas de Météo France. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter, le 13-14. Marion Loup.
Amazing grace, how sweet the sound.
C'était l'un des événements de l'année 2021, l'investiture de Joe Biden, dirigeant démocrate des États-Unis, après 4 ans de présidence Trump. Un an après, l'état de grâce s'est vite dissipé. Joe Biden a rencontré des difficultés, parfois déçu, débâcle en Afghanistan, plan de relance partiellement bloqué, inflation, crise des sous-marins, élection partielle perdue, popularité en baisse, jusqu'à cet échange avec un électeur il y a quelques jours à la télévision pour Noël.
I hope you have a wonderful Christmas.
Yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well.
Merry
Christmas and let's go Brandon.
Let's go Brandon, I agree.
Joyeux Noël et Let's go Brandon, dit ce citoyen américain. Let's go Brandon, ça veut dire vas-y Brandon. C'est aussi une façon codée pour les anti-Biden de dire fuck Joe Biden, va te faire foutre Joe Biden. Pour le bilan et l'état des lieux de cette présidence démocrate aux États-Unis, nous sommes aujourd'hui avec Laurence Nardon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, responsable à l'IFRI pour l'Amérique du Nord. Vos questions, chers auditeurs, sur les États-Unis, 01 45 24 7000. Laurence Nardon, ça fait presque un an que Joe Biden est président des États-Unis. Quel premier bilan peut-on tirer de cette présidence ?
Ben, le bilan, il est quand même assez en demi-teinte pour lui, j'ai envie de dire malheureusement. Il a un taux d'approbation de 40% à peu près, ce qui est très très bas pour un président américain. Enfin, plus haut que Trump à la même époque, mais quand même relativement bas. Et je pense que la raison, c'est que il y avait beaucoup d'attentes. Il avait promis de faire une réunification, un apaisement total du pays après Trump. Et puis en fait, il a quand même beaucoup d'opposition. Il a une marge de soutien très faible dans l'opinion publique américaine, parce que il fait face non seulement à l'opposition républicaine qui est quand même vent debout contre lui. Elle est très trumpisée, mais même au sein de son propre parti, il y a un courant de gauche qui se méfie beaucoup de lui parce qu'il le juge comme un modéré, ce qu'il est à mon avis, mais aussi un courant centriste du Parti démocrate, donc son propre parti, qui se méfie aussi de lui parce que ces projets de loi qu'il porte depuis un an sont à leurs yeux beaucoup trop à gauche, beaucoup trop dépensiers, voire éventuellement socialistes, entre guillemets, ce qui est un très gros mot aux États-Unis. Et donc, sa marge de soutien dans l'opinion est assez faible. Donc voilà pourquoi on en est là aujourd'hui.
La quadrature du cercle, en quelque sorte, pour Joe Biden. À ce sujet, question d'Éric au Standard de France Inter. Bonjour Éric.
Oui, bonjour.
Votre question à Laurence Nardon.
Ma question, c'est que peut faire Biden que n'a pas fait Obama? Parce qu'on sait qu'il a une majorité qui est relativement réduite. Hein. On l'a bien vu, là, il suffit qu'il y en ait un qui fasse défection d'un côté et puis ça bascule. Voilà, donc j'aurais voulu savoir ce que pouvait faire Biden que n'a pas fait Obama. Et puis je pense quand même aussi, par rapport au dossier de Julian Assange, peut-être arrêter les persécutions.
Alors, Laurence Nardon, dans le contexte que vous nous avez décrit, qu'est-ce que Biden peut faire?
Pour la première question d'Eric, qu'est-ce qu'il peut faire de différent d'Obama? En fait, il est quand même arrivé avec un programme très différent d'Obama. Parce qu'Obama, il faisait partie vraiment de la vieille école américaine, enfin, l'école économique qui était en place depuis les années 80, c'est-à-dire que c'était un libéral, au sens français du terme, hein, un libéral économique, donc l'État ne doit pas en faire trop, on ne doit pas trop dépenser, etc. Biden, même s'il a fait campagne comme un modéré, il est arrivé avec son projet énorme de dépenses pour les infrastructures, pour l'environnement, pour remettre en place l'ascenseur social américain, c'est ce projet Build Back Better. Mm. C'est ce fameux plan dont il a fait voter déjà une moitié péniblement, et l'autre moitié va être encore plus dur.
Qui est partiellement bloqué, c'est ça, il y a une chance que ça passe.
Écoutez, il y a ces fameux sénateurs démocrates centristes qui lui mettent des bâtons dans les roues, donc ça va être difficile à passer. En même temps, il a une grande alliée à la Chambre qui est Nancy Pelosi, la chef des démocrates de la Chambre, et qui est très très habile pour faire voter les projets de loi. Donc on va voir si elle s'en sort. Mais ce que je veux dire sur le fond, c'est que Biden, il est arrivé avec un projet qui est vraiment très social et de dépenses de l'État pour remettre en route les routes, les infrastructures, les aéroports, etc. Tout ça, ce qui tombe en ruine aux États-Unis, les réseaux électriques, etc., pour refaire partir la prospérité de la classe moyenne américaine. Et donc ça, c'est vraiment un changement d'époque aux États-Unis. C'est la fin du cycle libéral de Reagan et le début d'un nouveau cycle un peu plus keynésien, si vous voulez, avec de la relance pour faire marcher l'économie. Et donc, je réponds à Eric, là, il y a quelque chose de très très différent par rapport à Obama que Biden essaye de faire. Après, il y a des problèmes, mais je vais peut-être vous laisser les questions suivantes.
Mais le piège, effectivement, le piège inattendu sur le plan économique, c'est l'inflation.
Exactement. Alors, ce qui est vraiment tragique pour le projet de Biden, c'est qu'au moment où il y a une certaine partie de la population américaine qui est prête à en finir avec ce fameux libéralisme économique pour relancer la machine à coup d'investissements publics fédéraux, eh ben, boum, il y a de l'inflation qui arrive. 6% en 2021, un taux qui s'était pas vu depuis les années 80 et les gens tremblent parce que l'inflation, ça veut dire que votre épargne perd de sa valeur, enfin c'est très grave. Et au moment même où on pourrait avoir une relance économique dans le pays qui s'adresse un peu à tout le monde, l'inflation risque de faire hésiter les législateurs, donc ceux qui sont en train d'hésiter justement à voter ces fameux plans Build Back Better.
L'inflation qui est au-dessus de 5% depuis déjà 7 mois. Question aussi économique d'Étienne au Standard de France Inter. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour mesdames. La question est très simple. Donc moi j'écoute le journal de France Inter depuis très très longtemps, le journal de 13h. Quand c'était la présidence de l'ancien président Trump, donc il était très favorable aux entreprises américaines, même si ça polluait à fond, il était très favorable. Donc, moi je voudrais savoir quelle est l'incidence de l'élection de Joe Biden sur les bourses américaines et sur les bourses européennes et françaises en particulier, s'il vous plaît.
Merci Étienne. Laurence Nardon, il est vu comment sur les marchés, Joe Biden ?
Je suis pas sûre que ça ait un impact négatif parce que les bourses sont au plus haut en ce moment. En même temps, là, on sort un tout petit peu de mon champ de compétences. Mais je pense qu'il n'y a pas d'impact négatif pour répondre à Étienne.
Un autre sujet, une autre difficulté de Joe Biden, c'est la Covid. 820 000 morts de la Covid depuis le début de la pandémie aux États-Unis. Joe Biden est arrivé en disant qu'il allait rompre avec une gestion erratique de Donald Trump. En fait, plus de la moitié des victimes dont je parlais datent de sa présidence à lui. Est-ce qu'il a raté son coup, en quelque sorte?
Alors ça, c'est vraiment dur pour lui, parce que ils ont eu, aux États-Unis, une vague Delta beaucoup plus forte que chez nous, cet été. Après quoi, il y a la vague Omicron qui démarre, pareil que chez nous, donc ils ont beaucoup de mal. On peut blâmer Biden, pas complètement, parce que d'abord, il a une attitude beaucoup plus rationnelle, il écoute les scientifiques, enfin, il est beaucoup moins imprévisible que Trump ne l'était sur ce dossier il y a un an. Et en même temps, il peut pas faire grand-chose parce que aux États-Unis, c'est un pays fédéral et donc la plupart des décisions, par exemple de confinement, d'ouverture des écoles, etc., elles sont prises par les gouverneurs des 50 États. Et lui, il peut depuis la Maison Blanche exhorter les uns et les autres à se faire vacciner, mais il a pas beaucoup d'autorité constitutionnelle en la matière. Voilà. Il faut dire aussi qu'aux États-Unis, donc dans les 50 États, les choses se passent différemment, mais beaucoup d'écoles sont restées fermées vraiment depuis des mois et des mois, ce qui fait que les parents peuvent pas aller travailler. Enfin, c'est très compliqué. Oui. Un dernier point là-dessus aussi, c'est que c'est un sujet qui, comme tous les sujets aux États-Unis, est extrêmement polarisé entre démocrates et républicains. Aujourd'hui, en gros, si vous êtes démocrate, vous êtes vacciné, troisième dose éventuellement. Alors que si vous êtes républicain, il y a des chances que vous soyez anti-vax et anti-masque, etc.
Alors, c'est ça le principal frein, c'est la résistance au vaccin.
Il y a des résistances au vaccin dans les électorats républicains. Alors pas tous, hein, c'est une fraction importante de l'électorat républicain et réfractaire pour des raisons de libertarisme en fait, hein, de responsabilité individuelle. On ne doit pas me dire ce que je dois faire, etc. Et ça explique en partie le nombre de contaminations et le nombre de morts. Donc comme vous disiez, 820 000 depuis le début.
Mais quand Joe Biden choisit de réduire la durée de l'isolement pour les positifs à la Covid, passer de 10 à 5 jours, est-ce qu'il fait pas plutôt le choix de l'économie plutôt que celui du sanitaire au fond ?
Oui, bah oui, certainement, parce que l'économie, comme je vous le disais, du fait que beaucoup d'écoles sont restées fermées, l'économie a beaucoup de mal à repartir et les parents à aller au travail, et donc c'est pour cela, à mon avis, qu'il a fait ce choix de passer de 10 à 5 jours, un choix qui donc doit être confirmé par les gouverneurs dans les États.
Émile est au standard de France Inter. Bonjour Émile.
Bonjour.
Vous avez une question.
Merci
pour Laurence
Nardon. Ma question est la suivante. Est-ce que monsieur le président Biden et les élus démocrates qui le soutiennent ne sont pas piégés par les grands donateurs des campagnes électorales qui ne veulent pas de réforme sociale ?
Laurence Nardon.
Ah oui, bah alors là, c'est l'immense question du financement de la vie politique aux États-Unis. La vie politique coûte très très cher, donc il faut beaucoup de financement. Alors, pour répondre à Émile, en fait, on observe que dans les grands donateurs du Parti démocrate, d'abord, il y a des grandes entreprises, et certaines d'entre elles veulent avoir une politique plus sociale. Il ne faut pas croire que toutes les grandes entreprises sont des capitalistes cruels et antisociales. Sociaux. Enfin, il y a vraiment des boîtes qui veulent aller dans le sens d'une plus grande défense de la classe moyenne et des minorités, par exemple. Et puis, par ailleurs, il y a un second phénomène très intéressant aux États-Unis, enfin, en tout cas, pour ce que j'en sais, c'est les microfinancements par des citoyens lambda qui font des petites donations. Et ça, avec Internet, le crowdfunding, c'est-à-dire les financements collaboratifs, ça marche très bien. Et ça marche très bien aussi chez les républicains, d'ailleurs. Hein, c'est pas uniquement chez les démocrates. Et donc, je crois pas qu'on ait vraiment aujourd'hui, dans le contexte idéologique beaucoup plus social aux États-Unis, en tout cas chez les démocrates, je crois pas qu'il y ait encore de grandes compagnies donatrices qui freinent sur les projets plus sociaux de cette présidence.
Laurence Nardon, il y a eu plusieurs procédures cette année concernant les attaques du Capitole il y a près d'un an. Les partisans de Trump qui avaient voulu empêcher le Congrès de valider la victoire de Biden. La démocratie américaine aujourd'hui, elle est plus solide, elle est redevenue solide après ces attaques ?
Ah, alors ça c'est une très bonne question parce que ça me permet de parler de ce qui à mon avis est un enjeu hyper important aux États-Unis aujourd'hui. Donc autour de la sauvegarde de la démocratie, hein, c'est la question du droit de vote, parce que on voit dans les législatures républicaines, donc dans les États parmi les 50 États qui sont gouvernés par des républicains, on voit depuis des mois et des mois, peut-être même des années, depuis un arrêt de 2013 en fait. Bref, on voit des lois qui sont passées dans ces États pour rendre un peu plus compliqué l'accès au vote de la part des personnes qui sont les moins aisées, qui généralement sont des minorités qui se trouvent voter démocrates. On voit aussi des redécoupages électoraux qui sont favorables à un camp, c'est-à-dire en gros les républicains plutôt que les démocrates. Il y a là des attaques en germe qui pourront donner leurs effets lors des prochaines élections, donc les élections de mi-mandat de novembre prochain, par exemple, ou même, évidemment, les présidentielles prochaines en 2024. Et là, il y a quelque chose, à mon avis, de très inquiétant. Le président Biden a préparé des projets de loi pour garantir, remettre en route un accès au vote pour tout le monde. Et là aussi, ben, ces fameux sénateurs modérés, Joe Manchin, pour ne pas le nommer, un sénateur démocrate modéré, mettent là aussi des bâtons dans les roues.
Laurence Nardon, je vais vous demander de répondre par oui ou par non, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que Joe Biden peut remporter les élections de mi-mandat dont vous parliez à l'automne prochain ?
C'est mal parti.
Laurence Nardon, merci à vous. Spécialiste des États-Unis, vous dirigez le programme Amérique du Nord de l'IFRI. Merci de nous avoir répondu sur France Inter.
France Inter, le 13-14.
13h44, dans quelques minutes sur France Inter, notre feuilleton vous ramène sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Quelques mois après, le chantier est sécurisé, la reconstruction démarre avec son lot de polémiques, vous verrez. Juste avant 14h, le vif de l'histoire, nouvelle escale de Jean Lebrun dans un lieu méconnu. Aujourd'hui, l'hôpital psychiatrique particulier de Saint-Alban sur Limagnol. Mais tout de suite, musique. Bonjour Anna Sigalevitch.
Bonjour Marion.
La vie serait moins belle sans votre chronique avec des artistes qui nous parlent de musique classique. Et aujourd'hui, on est en compagnie de...
De l'écrivaine Marie Desplechin. Pour elle, la vie serait moins belle sans... Bonjour Marie Desplechin.
Bonjour Anna Sigalevitch.
Qu'est-ce qu'on entend ?
On entend le début du premier lied des Kindertötenlieder, les chants pour la mort des enfants morts, de Gustave Mahler, chanté par Kathleen Ferrier, sous la direction de Bruno Walter.
Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de nous faire entendre ce cycle de lieder ?
Parce que ça m'a accompagné presque toute ma vie, j'ai dû le découvrir à l'adolescence et c'est absolument bouleversant. La voix de la musique de Mahler, mais la voix de Kathleen Ferrier, c'est irrésistible, il n'y a pas besoin d'avoir une éducation à la musique pour comprendre tout de suite qu'on est dans le bouleversement émotionnel.
Est-ce que vous avez le souvenir de votre première écoute ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez le souvenir de l'émotion, en tout cas, de ce que ça a déclenché en vous ?
Ah ben c'est physique. Vous avez des frissons. C'est étonnant, parce que c'est super triste. Hein. C'est des chants écrits par un poète allemand après la mort de ses deux enfants. Mais la splendeur du chant, l'émotion de la voix. Rien qu'en en parlant, mais en le réécoutant, même pour vous là, ça vous hérisse. Quoi. Vous êtes saisi par une espèce de tremblement. C'est extrêmement physique. Alors curieusement, vous sentez immédiatement que vous êtes dans la douleur, dans la peine, dans le deuil. Vous n'êtes pas triste. C'est-à-dire, c'est tellement beau, c'est tellement spirituel que c'est au-delà de la tristesse. Et ça vous sert toute votre vie. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas une raison d'être triste particulière ou si vous n'avez pas éprouvé de deuil, eh ben, il y a une espèce d'écrin qui est créé pour toutes les douleurs à venir. Souvent, la douleur, c'est moche, quoi. Et en fait, là, non. Cette métamorphose-là, elle est incroyable. Il y a l'émotion pure de la musique qui est très représentative. La musique de Mahler, c'est vraiment une musique qui vous loupe pas, qui vous raconte des choses, qui vous montre des symboles.
Qu'est-ce qu'elle vous raconte, la musique de Mahler, Marie Desplechin ?
Dans ce cas-là, elle vient vous chercher et elle vous accompagne. Et elle vous accompagne dans quelque chose qui est funèbre, hein, mais elle ne vous laisse pas tomber. Elle vous tient, quoi. Et ça crée comme une espèce d'écrin à la voix de Kathleen Ferrier et elle ne l'étouffe jamais. Alors Kathleen Ferrier, c'est une voix, d'abord c'est une voix inouïe, c'est un contralto. Et ce qui est dingue, c'est que c'est une voix entre l'homme et la femme. Je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est une voix divine, quoi, justement, parce qu'elle n'est pas marquée par la féminité ni par la masculinité.
Vous écoutez souvent, dans quelles conditions, ce cycle de leader Marie de Plochin ?
Ça peut être des moments... Non, je vais dire un truc qui est un petit peu exagéré. Oui, en fait, tant pis, puisque j'ai dans la tête, mais ça ressemble à des prières, dans des moments où vous avez besoin de vous rassembler et de passer au-delà de vous, en fait, de vous raccorder à un souffle qui est autre chose que votre propre souffle. C'est ça qui fait que la musique, c'est l'art absolu. L'écriture, c'est tellement en deçà de ce que fait la musique, hein, qui vous touche partout, quoi.
Avec quel lead vous voulez qu'on se dise au revoir, Marie Desplechin ?
Alors moi, je dirais le troisième. Le troisième, il commence comme une comptine dans les premières mesures. Après, il s'éloigne et c'est vrai, on rentre dans le déchirant.
Merci Anna et merci à Anne Weinfeld pour la réalisation de cette chronique. Demain, pour la dernière, on rencontre
le chanteur Mika.
h 49 sur France Inter, une semaine dans leur vie. Le feuilleton du 13-14 revient cette semaine sur les sujets qui ont marqué l'année. En septembre, nous avions pu visiter le chantier de Notre-Dame à Paris, ravagé par l'incendie d'avril 2019. Avec notre journaliste, Rémi Brancato, on monte sur les échafaudages et on mesure l'ampleur du travail de sauvegarde. C'est surtout l'occasion d'entendre des passionnés comme les charpentiers et cordistes, spécialistes des travaux en hauteur.
Bonjour.
Moi je m'appelle Grégory Vacheron, je suis chef de chantier sur Notre-Dame. J'ai tendance à dire que j'ai la chance d'avoir un des plus beaux bureaux du monde, même s'il est un petit peu endommagé. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu la maison.
On va s'avancer un tout petit peu, c'est ici, si je ne m'abuse, que se dressait avant l'incendie du 15 avril 2019 la flèche.
Les voûtes étaient sinistrées dues à l'incendie. On a dû intervenir pour déblayer tous les morceaux de charpente qui étaient présents sur les voûtes.
Donc on se retrouve sur un échafaudage sur la toiture de Notre-Dame en compagnie d'un charpentier. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Yves Massel, charpentier chez Le Bras Frère. Là actuellement on est en train d'étancher le bâtiment lui-même, le mettre hors d'eau tout simplement.
Qu'est-ce qu'on a ici sous les yeux ? Ce sont les arcs-boutants.
Les arcs-boutants, voilà. C'est les premiers travaux qu'on a effectués il y a bientôt 2 ans et demi. Ces arcs-boutants en bois sont là pour maintenir les arcs-boutants, eux, en pierre, qui menaçaient à l'époque de s'effondrer. Nous, on est arrivé le lendemain de l'incendie. Quand on est arrivé, nous, il y avait encore des pompiers qui étaient là. Il y avait encore des bois qui fumaient. Il y avait encore quelques foyers encore d'allumés. Notre-Dame, c'est un monument qui est sacré, quoi. Je veux dire, il est important aux yeux de tout le monde. Faire des choses comme on a fait là, je le ferai sans doute plus, moi. Aussi gros, aussi grand, et non, j'en ferai plus comme ça.
Qu'est-ce qui vous reste à faire ici, à Notre-Dame ?
Moi, il me reste 2-3 bricoles, les parapluies qu'on a vus tout à l'heure, quelques bois à mettre, et après, nous, on aura fini.
On aura sécurisé Notre-Dame.
On aura sauvé la grand-mère.
On vient d'entendre ces artisans du chantier de Notre-Dame, un chantier qui se poursuit. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
C'est vous qui les aviez rencontrés et depuis début septembre et le tournage de votre reportage, le chantier de Notre-Dame a bien avancé. La première étape, c'est la fin de la sécurisation.
Oui, étape capitale cruciale, actée officiellement le 18 septembre, Marion, la fin de la sécurisation, c'est-à-dire que Notre-Dame est sauvée, que les murs ne s'effondreront pas. Mmh. Une phase longue qui a nécessité la pose d'un cintre, d'un parapluie, autrement dit de bâches amovibles, pour mettre le monument hors d'eau.
Et l'étape suivante, donc, c'est la reconstruction.
Oui, la restauration est officiellement lancée. Les travaux vont débuter cet hiver, car il faut attendre que les appels d'offres aient trouvé leur lauréat. L'établissement public en charge du chantier de la cathédrale a ouvert début novembre une centaine de marchés publics. Les petites, les grandes entreprises sont bienvenues de toute la France. Elles peuvent d'ailleurs se regrouper. Le chantier veut aller chercher des talents partout sur le territoire, pas forcément ceux qui ont d'ailleurs déjà participé au chantier de sécurisation. Et puis, on cherche aussi pour l'intérieur de la cathédrale, des peintres ou encore des ferronniers d'art. Et enfin, des charpentiers pour la flèche et pour remplacer la fameuse forêt, la charpente.
Et cette charpente, pour la reconstruire, on a besoin d'arbres, évidemment.
Oui, 1000 chênes, Marion, des forêts publiques gérées par l'ONF ou bien privées ont été offerts dans toute la France. On a encore scié, il y a 2 semaines, 8 grumes de taille exceptionnelle pour constituer ce qu'on appelle le tabouret de la flèche de Viollet-le-Duc.
Et Rémi, depuis la diffusion du feuilleton en septembre dernier, les travaux à Notre-Dame ont à nouveau suscité la polémique.
Depuis quelques semaines, c'est le réaménagement intérieur qui a fait débat. En fait, il s'agit de remplacer notamment le mobilier liturgique qui sert pour les célébrations religieuses. Et c'est le diocèse de Paris qui veut donner un coup de jeune. Résultat, une querelle des anciens et des modernes avec 100 personnalités qui ont dénoncé ce projet, qui ont publié une tribune et qui appellent à respecter le style Viollet-le-Duc du 19e siècle. Finalement, la CNPA, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture au ministère de la Culture, a validé ce projet avec quelques bémols. Le diocèse devra présenter un nouveau projet pour les bancs aluminium qui doivent remplacer les chaises et la CNPA ne veut pas que les statues dans les chapelles soient déplacées. Mais globalement, les travaux pour l'intérieur vont pouvoir être lancés.
Merci Rémi Brancato. Votre feuilleton sur ce chantier exceptionnel est à retrouver en son et en image sur notre site franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
Suite de notre semaine à la découverte de lieux secrets, Jean Lebrun et le vif de l'histoire nous guident dans les replis de la carte. Aujourd'hui, en Lozère, un hôpital psychiatrique hors norme, Saint-Alban-sur-Limagnol.
Bon, alors si vous hésitez, vous aventurez en Gévaudan en hiver. Une exposition lui est consacrée en plein Toulouse, au Centre d'art des abattoirs, sous le titre « La déconiatrie ». La déconiatrie, ben, c'est un mot inventé par le docteur Toschkeles. Il est arrivé dans le village à pied en 1940 après un long périple qu'il avait mené de la Catalogne républicaine vaincue à un camp d'internement français dont il avait réussi à s'extraire. Et on lui avait offert un simple poste d'infirmier à Saint-Alban qui dégorgeait de malades évacués de la zone occupée. Toschkeles s'impose rapidement comme leader à Saint-Alban. Il n'aime pas le label hôpital psychiatrique qu'un décret de 1937 a posé sur l'endroit. À tout prendre, lui, préfère asile. À l'asile, la folie peut dire ses mots et se déployer tout entière. Son idée, c'est qu'il faudrait soigner l'hôpital autant que les malades. C'est pour cela qu'on parlera à son sujet plus tard de psychothérapie institutionnelle. Traitons aussi l'institution. Et laissons les malades déconner. Et pendant qu'ils déconnent, dans le silence ou en intervenant, plutôt dans le silence, déconnons à notre tour, nous autres soignants. La déconiatrie, je vous dis.
La guerre est vécue dans les autres hôpitaux psychiatriques comme une calamité. À Saint-Alban, elle ouvre des opportunités.
Elle permet de jeter des hypothèses sur la table. Ou bien, disent les animateurs de Saint-Alban, nous nous replions sur le malheur et nous sommes cernés par le froid. La disette endémique, la mort. Les statistiques des hôpitaux psychiatriques sous le régime de Pétain sont glaçantes. Soit nous avançons ensemble. Toschkeles, en Catalogne, était membre du PUM, un parti communiste farouchement dissident. L'intendance de Saint-Alban est tenue par sœur Marie Théophile et un groupe de religieuses de la congrégation de Saint-François Régis. Toschkeles va en faire un commando avancé. Que les religieuses deviennent vraiment chrétiennes, dit-elle, elles s'entendront avec les communistes si ceux-ci sont vraiment communistes. Et voici d'ailleurs qu'un médecin communiste, orthodoxe, Lucien Bonafé, arrive à la tête de l'hôpital. Sous Pétain, la Lozère, c'est vraiment unique. Or, Toschkeles, lui, est furieusement anti-stalinien. Eh bien, les deux hommes vont se lier d'une amitié si forte qu'elle ne cessera jamais.
Incroyable. Saint-Alban-sur-Limagnol devient à la fois un refuge et un laboratoire.
Refuge, c'est la Lozère dans son ensemble qu'il est. Sans doute les Cévennes protestantes, ce jardin d'Israël, davantage que le Gévaudan catholique. Mais à Saint-Alban aussi vont venir se dissimuler nombre de Juifs. Qui a connu la télé en noir et blanc, Marion ? Eh oui, se souvient de Denise Glaser, la productrice de Discorama, qui inventa tant de nos meilleurs chanteurs. Elle tenait la bibliothèque de l'hôpital. Didier Deninx lui a prêté une aventure avec Éluard, qui habita là l'hiver 43-44, accompagné de sa femme Nuche. Liberté, j'écris ton nom. Zara, le philosophe Can Guillem, le critique de cinéma Sadoul, sont aussi passés par Saint-Alban. Alors cela ne se montrait pas nécessairement beaucoup dehors. Mais les malades, eux, sortaient de plus en plus. Par exemple, pour travailler aux champs et aux jardins, les frontières se brouillaient avec les paysans. Il fallait bien nourrir les quelques 1000 bouches que comptait l'hôpital. le travail, mais aussi le loisir. Un ciné-club, un journal, des fêtes avec leurs balles d'écroulant, leurs championnats de pétanque, etc.
Et pourquoi, Jean, une exposition sur Toscales et l'hôpital dans un centre d'art, les abattoirs de Toulouse ?
Eh bien parce que les pratiques artistiques sont encouragées à l'hôpital. Auguste Forestier est interné depuis 1915 pour avoir fait dérailler un train. Eh bien, il crée un atelier où il sculpte et assemble toutes sortes de matériaux de rebut. Il apparaît toujours coiffé d'un képi couvert de médailles et au bout de ses doigts surgissent d'étonnantes créatures chimériques. Ces objets entrent dans une économie de troc qui s'est avérée très utile dans le ravitaillement de Saint-Alban.
Et l'héritage de l'endroit est donc double, psychiatrique d'un côté, artistique de l'autre, Jean.
En 1945, Jean Dubuffet rend visite à Saint-Alban. L'art brut tel qu'il le conçoit fait une place pionnière aux pensionnaires de Toscales qu'on retrouve dans l'exposition des abattoirs de Toulouse, Forestier, mais aussi Marguerite Sirvin avec ses poupées faussement enfantines, ou Aimable Jaillet avec ses cartons et ses papiers d'emballage. Autant des normes omnipotentes, il est bon de rappeler la fécondité de l'extravagance raisonnée de Saint-Alban.
Cette exposition des abattoirs de Toulouse dure jusqu'au 6 mars 2022. Merci Jean pour cette nouvelle escapade dans les replis de la carte.
Avec le froid et l'humidité, le coronavirus circule de plus en plus. Pour se protéger et protéger les autres, il est primordial d'appliquer ces gestes barrières. Porter un masque à l'intérieur, aérer les pièces 10 minutes toutes les heures, se laver les mains, éviter de s'embrasser et de serrer les mains. Restons prudents et continuons de prendre soin les uns des autres. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Dans un instant, sur France Inter, cette grande question, l'histoire de l'univers a-t-elle un sens ? Réponse dans La Terre au carré de Mathieu Vidard.